affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Alors que nous entrons tous dans la quatrième semaine de confinement due à l'épidémie de coronavirus, nous espérons tout d'abord que vous vous portez bien. Selon l'expression du président de la République, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un virus, si bien que cette guerre, à l'inverse d'autres, aurait pu contribuer à unir l'humanité contre un ennemi commun. Mais force est de constater que cette guerre en cache d'autres, l'épidémie ayant plutôt tendance à exacerber les rivalités et jeux d'influence entre puissances, si bien qu'elle donne lieu aujourd'hui à une guerre informationnelle dans laquelle la Chine occupe une place majeure. D'abord parce qu'elle est le pays où est née l'épidémie, bien sûr, mais aussi parce que cette épidémie rebat les cartes mondiales, oblige à, comme l'a également dit le président de la République, à balayer des certitudes anciennes, à des révisions déchirantes. Et dans cette réflexion sur le monde d'après, qui s'ébauche déjà, la Chine, nouvel acteur mondial s'il en est, occupe une place prépondérante. Ainsi, une série d'interprétations divergentes se font sur la gestion de l'épidémie, les conséquences de celle-ci sur le régime chinois, les conséquences diplomatiques également, ou enfin, bien sûr, économique. Pour aborder toutes ces questions, les décrypter, pour nous qui connaissons finalement encore mal la Chine, nous avons décidé d'inviter Madame Bastide Bruguière, historienne de la Chine contemporaine, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancienne directrice de recherche au CNRS et enseignante à Paris 7 et à l'École des hautes études en sciences sociales. Madame, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose que nous commencions par le début, c'est-à-dire par la naissance, le déclenchement et la gestion de cette épidémie. Certains, à cette occasion, louent l'efficacité de la gestion de l'épidémie par le régime chinois, qui en a fait, il est vrai, une sorte de démonstration de son savoir-faire. On songe notamment à la création d'un hôpital de 1000 lits en quelques jours à peine, ou encore au recours à de nombreuses technologies de pointe, des drones, des caméras infrarouges, que sais-je. À l'inverse, d'autres estiment qu'il ne s'agit là que de mise en scène visant à masquer l'incurie du régime, à faire oublier son manque de réactivité et de transparence. Ils dénoncent les mensonges du régime chinois qui auraient conduit le monde à la catastrophe, en réduisant notamment au silence les premiers lanceurs d'alerte, en l'occurrence des médecins de la ville de Wuhan. Que pensez-vous de ces thèses contradictoires? La vérité situe-t-elle au milieu? Faut-il départager certaines informations et d'autres? Quel est votre sentiment sur cette gestion de l'épidémie par la Chine?
Au début, la gestion de l'épidémie à Wuhan a été assez mal prise en charge parce que simplement les médecins ont été déconcertés par ce qui se passait. Le confinement n'a commencé que le 20 janvier. En réalité, il y avait déjà des cas le 17 novembre. Et le problème, c'est que pendant plusieurs semaines, on ne pensait pas que la contagion se faisait par les humains. On pensait qu'au fond, c'était des cas isolés les uns des autres. Et pourtant, il y avait déjà 266 cas d'infection à la fin de 2019. Et c'est le 27 décembre qu'un médecin de Wuhan a signalé le problème aux autorités centrales et que ça a été écouté. C'est le docteur Zhang Tixian qui a fait ça. Et dès le 1er janvier, il y avait 381 cas et il y avait 50% de cas supplémentaires tous les jours. Alors, la mise en route des mesures de protection a été assez lente et parce que on ne savait pas comment maîtriser le virus. Et on ne sait toujours pas d'ailleurs comment soigner, ni non plus comment empêcher la propagation. Donc, il y a eu, sans aucun doute, une réticence de l'appareil communiste à reconnaître qu'il y avait un drame, qu'il y avait un péril, mais il y a eu aussi une sorte d'impuissance des médecins à maîtriser la question au début. Alors, ensuite, à partir du 20 janvier, on a mis en route des mesures qui ont été efficaces. Et là, ce qui a permis de limiter assez rapidement, relativement rapidement, le progrès de l'épidémie, c'est un système qui n'est pas un système propre à la police communiste, qui est un système très ancien qui existe dans les pays asiatiques, par lequel les gens sont regroupés en petites collectivités d'environ 200 personnes, pour lesquelles il y a un responsable de la communauté qui en général est un retraité de la fonction publique très souvent, qui, dans le cas de la Chine, renseigne le poste de police du quartier, qui lui-même renseigne le ministère de la Sécurité. Cette personne est un peu payée, elle est remplacée tous les 4 ans en principe, mais surtout, elle va dans les familles et elle collecte les informations qu'elle peut transmettre aux autorités. Et là, le rôle de ces gens, ça a été de détecter les personnes qui étaient malades, de les isoler complètement. On les a envoyées en dehors de chez elles et on les a gardées en dehors de chez elles et d'envoyer à l'hôpital alors les personnes qui étaient gravement malades. Et c'est par cet isolement et aussi par ce traçage régulier qu'on est arrivé à empêcher une progression trop violente de l'épidémie. Mais malgré tout, au début, les mesures de protection et les mesures de soins étaient pas tout à fait à la même à la proportion de l'épidémie.
Très bien, merci de ces éclaircissements. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi du système de santé chinois avant la crise et puis sa montée en puissance, notamment à Wuhan, à l'occasion de cette crise?
À la suite de l'épidémie de SARS en 2003, la Chine s'était dotée d'un système au fond de prévision et de traitement des épidémies. Mais ce système, semble-t-il, n'a pas fonctionné comme il aurait dû et les laboratoires très d'avant-garde qu'on avait créés, notamment à Wuhan même, avec une collaboration française et américaine pour étudier les virus et essayer de trouver des vaccins pour les virus qui pouvaient se présenter, ces institutions ne semblent pas avoir joué sur le coup le rôle qu'elles auraient pu. La coordination entre les différentes institutions semble avoir été très déficiente et il y a eu beaucoup d'approximations en réalité. Peu à peu, un système coordonné s'est mis en place, mais pendant plusieurs semaines, tel n'était pas le cas.
À propos de ces laboratoires, on voit de plus en plus un certain nombre de gens qui ressortent de vieux articles, qui s'étonnent du manque de rigueur dans la gestion des virus, dans les protocoles de sécurité, si bien que certains émettent l'hypothèse, c'est le cas si j'ai bien lu des services secrets britanniques, qui gardent ouverte l'option que le virus serait sorti non pas du marché alimentaire de Wuhan, mais de l'un de ses laboratoires. Et à l'inverse, ça illustre ce propos de guerre informationnelle à propos de l'épidémie. Les autorités chinoises qui accusent l'armée américaine d'avoir introduit le virus, non pas volontairement, mais à l'occasion d'une compétition sportive. Que pensez-vous de ces échanges?
Ça, c'est l'intoxication. D'un côté à l'autre, il y a toujours des journalistes qui souhaitent avoir du spectaculaire, du fantastique à mettre sous les yeux de leurs lecteurs. Mais depuis que la situation est davantage en main en Chine, il y a eu des études rétrospectives d'épidémiologie qui ont été conduites et qu'on continue à conduire, qu'on ne pouvait pas faire sur le coup parce que l'urgence de soigner la population était trop grande, les gens étaient occupés à soigner les malades et pas à essayer de repérer comment s'était propagée l'épidémie. Donc ces études maintenant sont conduites et elles sont publiées peu à peu, mais il faut continuer à les mener pour être vraiment au courant et bien informé de toute la situation. Et en réalité, il apparaît qu'il y a eu en plusieurs endroits de Chine, il y en a eu aussi à Canton, des malades avant la fin de 2019. Et donc, dans plusieurs endroits, il y a eu apparition de ce virus. Et on essaie de reconstituer maintenant scientifiquement la progression. Malgré tout, l'hypothèse du pangolin, du marché et de la transmission par les chauves-souris, elle reste valable. Et que c'est un virus qui est développé d'abord par des chauves-souris, dont certaines seraient dans la province du Yunnan, tout à fait au sud-ouest de la Chine, donc très loin de Wuhan, et transmise par ce petit animal qu'on appelle le pangolin et dont les Chinois sont très friands et qui se vendait sur les marchés de Wuhan. Mais cette hypothèse-là n'est pas écartée. On n'est pas encore sûr.
Très bien. Alors, sur place, il a été dit, notamment dans la presse occidentale, que les Chinois avaient été furieux de la façon dont l'épidémie avait été gérée, si bien que l'épidémie de Covid-19 pouvait représenter pour la Chine ce que Tchernobyl a été pour l'URSS, un événement qui montre l'incurie de son système, qui sape son prestige, démontre ses dysfonctionnements et in fine peut-être l'inefficacité intrinsèque des systèmes totalitaires, si bien que ce serait un choc qui pourrait conduire, si ce n'est un changement de régime, au moins à une évolution profonde de celui-ci. Que pensez-vous de cette hypothèse?
Selon les régions, le traitement de l'épidémie et les mesures prises et aussi les conditions de prise en charge dans les hôpitaux ou dans les centres de regroupement des malades qui n'étaient pas très gravement atteints, ont été différentes. Et selon les moments, aussi à la fin de février, c'était plutôt chaotique. En revanche, au mois de mars, c'était beaucoup mieux. Et aussi, on a parlé de Pékin, on a parlé de Wuhan, de Shanghai, un peu de Canton. Mais il faut penser aux régions rurales ou aux régions dans les petites villes où on a peu d'informations. Moi, d'après ce que je sais, d'après des correspondants, ça a été vraiment dur. Mais finalement, et il y a du ressentiment sur la manière dont les affaires ont été conduites, dont particulièrement certains médecins qui avaient prévenu assez tôt ont été maltraités par la police. Et la manière dont les secours ont été distribués, ceux qui ont eu le droit d'aller à l'hôpital, ceux qui n'ont pas eu le droit, et aussi les frais qu'on a fait supporter à la population dans certains cas, et alors que d'autres avaient les soins gratuits. Tout cela est assez complexe et certainement il y a un ressentiment du fait qu'on a été obligé de tout fermer alors que beaucoup de gens pensent que si on avait pris les choses tout à fait au début, sérieusement, il n'aurait pas été nécessaire de prendre ces mesures. Mais ce n'est pas sûr qu'il en soit ainsi, parce que si on voit aux États-Unis ou en Europe, où on était prévenu au fond de l'extension de l'épidémie, on a bien été obligé de revenir, de prendre des mesures aussi drastiques que celles qui ont été prises en Chine. Alors, il y a un ressentiment de la population sur le fait qu'il y a eu dissimulation, mais il y a en même temps une sorte de résignation. Ce que je pense, c'est que cette expérience de l'épidémie s'ajoute à des expériences antérieures, qu'elle nourrit un ressentiment de la population contre le gouvernement, également que ce que les journalistes ou la propagande chinoise a mis en avant par rapport aux puissances étrangères en disant qu'en Chine c'était magnifique et mettant en avant aussi le fait que la Chine donnait gratuitement à l'Afrique, à la Serbie des masques et des médicaments, cela énerve un certain nombre de gens. Mais je ne pense pas que directement les conséquences de la crise épidémique vont renverser le régime chinois. De toute façon, dans ces régimes très autoritaires, c'est au sommet que le changement de régime s'effectue. C'est par des dissensions au sommet, parce que ce sont les gens du sommet qui ont réellement la puissance, le pouvoir, les moyens d'action, la force militaire ou la force policière, que ça se dessine. Ce n'est pas par un soulèvement depuis un soulèvement paysan ou un soulèvement de la base.
Oui, mais
La base ensuite joue un rôle très important, mais le début, c'est le sommet.
Oui, c'est-à-dire que ce qu'on imaginait, ou ce que certains observateurs imaginaient, c'était plutôt un scénario de type glasnost, perestroïka du temps de Gorbatchev, mais
non,
c'est à l'échelle de la Chine.
Bon, il est certain qu'à la direction du parti, à la direction de l'État chinois, il y a des divergences, il y a même des opinions qui ont été émises, qui étaient des critiques contre la façon dont les choses avaient été traitées. Mais ça ne va pas éclater immédiatement, parce que le grand problème maintenant, comme pour nous d'ailleurs, c'est la même chose, c'est de remettre en marche la machine économique, de permettre que les gens retrouvent les revenus, parce que ceux qui ont été arrêtés en Chine, ils n'ont aucune assurance chômage, ils n'ont pas eu de revenus pendant plusieurs mois, et ça continue encore maintenant. Donc il faut absolument remettre les choses en route pour que les gens puissent avoir des moyens de subsistance et que la pauvreté très grande qui a été accrue par cette crise dans les régions les moins favorisées ne s'accroisse pas, et qu'il n'y ait pas des conséquences économiques redoutables.
Nous viendrons ultérieurement aux aspects économiques de la question. Vous avez évoqué le fait que la Chine avait offert un certain nombre de masques à différents pays. Alors justement, un certain nombre d'observateurs remarquent la mise en place d'une véritable diplomatie sanitaire chinoise. Alors la diplomatie sanitaire n'est pas que chinoise, tous les pays du monde font ça, mais enfin là, elle semble être massive et être l'occasion pour la Chine de tisser de nouveaux liens avec des pays frappés par l'épidémie, auxquels elle apporte son aide, ou encore des pays situés sur les fameuses routes de la soie. Il y aurait comme une correspondance entre la carte de l'aide apportée par la Chine et la carte des routes de la soie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et peut-être d'abord nous rappeler ce que sont ces fameuses routes de la soie?
Ces routes de la soie sont une sorte de plan géostratégique qui permet par des moyens, par l'établissement d'infrastructures qui sont soit des routes, soit des lignes de chemin de fer, soit des courants d'alimentation par des bateaux, hein, par les voies maritimes, qui permet de relier la Chine jusqu'à l'extrême ouest européen. Et ça permet de lier ensemble des pays qui souvent sont dans une situation économique difficile, comme par exemple les pays d'Asie centrale, autrefois appartenant à l'Union soviétique, et de leur redonner un élan économique, de leur permettre de se développer. Alors, bien sûr, comme il y a des liens qui ont été tissés et qu'il y a des connexions, que les Chinois ont des répondants dans ces pays, il est assez facile pour la propagande de dire on leur donne des masques, on leur donne des appareils respiratoires, du matériel médical, et ça montre que la route de la soie est vraiment utile. C'est bonne guerre, mais on a fait la même chose dans d'autres circonstances avec d'autres pays.
Est-ce que vous pensez que des liens nouveaux ou renforcés peuvent être tissés à cette occasion au bénéfice de la Chine, ou que c'est une illusion et une mise en scène à vocation de propagande ?
Des liens nouveaux, non, parce que ces liens existaient, ça les renforce, et dans la mesure où ni les États-Unis ni l'Europe ne peuvent fournir ces matériels, parce qu'on en a besoin pour nos propres citoyens, à des pays comme la Serbie ou comme tous les pays d'Afrique, tant mieux s'ils ont des masques chinois. Il y a des circonstances dans lesquelles il ne faut pas non plus jeter la pierre. C'est un peu ridicule. D'ailleurs, dernièrement, dans ces derniers jours, les diplomates chinois ou la propagande chinoise est beaucoup moins tonitruante sur cet aspect-là. Alors bien sûr, en Chine comme dans d'autres pays, il y a des gens qui sont très chauvins et qui mettent en avant que leur pays est supérieur aux autres, plus charitable que les autres, etc. Mais ça n'est pas forcément l'axe principal du gouvernement chinois lui-même, ni surtout l'opinion de la population chinoise dans son ensemble. Ce sont des phénomènes plutôt isolés.
Et dans l'échiquier asiatique lui-même, quel impact peut avoir cette épidémie sur les liens et le prestige de la Chine dans d'autres pays d'Asie, enfin, je pense aux relations avec Taïwan. On sait que peu avant l'épidémie, il y avait une autre crise centrée sur Hong Kong, qu'il y a une rivalité aussi de modèle avec la Corée du Sud. Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan de ce point de vue ?
On peut dire que dans les autres pays d'Asie, en Corée, au Vietnam, à Taïwan, au Japon, les mesures contre l'épidémie ont été plus efficaces qu'en Chine. Les choses se sont mieux passées qu'en Chine. La question des épidémies, elle a toujours existé en Asie orientale. Dernièrement, je relisais des textes des années 1930 sur la région immédiate, dans l'environnement immédiat de Pékin. Et tous les ans, il y avait des épidémies. Et dans ces pays, ils ont eu pendant très longtemps l'expérience des épidémies. Le masque sur lequel il y a tellement de controverses pour savoir s'il faut ou non le porter, il a été inventé par un Chinois qui s'appelait Wu Yende, au temps encore de la monarchie impériale. C'était en 1910, il y avait une terrible épidémie de peste en Mandchourie, dans le nord-est de la Chine, et il a inventé le port du masque. Pour ces pays, le problème, c'est de se protéger contre des gens qui viendraient de Chine. Et en fait, ils ont arrêté très tôt les vols et les transports avec la Chine, sauf certains qui étaient absolument vitaux, et ils surveillent toutes les arrivées qui viennent de Chine. Et par ce moyen, même si les Chinois n'étaient pas très contents quelquefois que la frontière soit fermée, ils se sont quand même relativement bien protégés, parce que dans un pays comme le Vietnam, qui a quand même 96 millions d'habitants, le 11 avril, il n'y avait que 258 cas d'infection et aucun mort. Donc c'est quand même assez remarquable. Et en Corée, il y a aussi un nombre relativement restreint d'infections et de décès. Au Japon, c'était la même chose. Alors maintenant, le Japon a renforcé récemment ses mesures, en particulier à Tokyo. Mais dans ces pays-là aussi, ce qui a joué, c'est ce système de quadrillage de la population par des gens qui sont dans les quartiers et qui connaissent les familles et qui donc peuvent faire cette veille qui est si essentielle pour savoir quels sont les cas infectieux et pour pouvoir les isoler tout de suite. Mais ça ne va pas changer fondamentalement leur rapport avec la Chine, parce qu'ils ont besoin pour leurs échanges, pour le développement de leur économie, des échanges avec la Chine, et la Chine a besoin d'eux aussi. Donc tout ça, ça va se remettre en place probablement selon des géographies ou selon des économies un peu différentes.
Alors justement, sur la question économique, certains rapports d'instituts prestigieux anticipent déjà qu'au lendemain de la crise, l'économie chinoise sera devenue cette fois définitivement, peut-être pas définitivement, enfin, sera devenue enfin la première économie au monde, notamment parce qu'elle elle semble redémarrer aujourd'hui, alors que ses concurrentes américaines et européennes sont encore totalement à l'arrêt, tandis que d'autres soulignent que cette crise pourrait entamer un mouvement de relocalisation des entreprises étrangères présentes en Chine. Il semble que ce soit déjà le cas, de nombreuses compagnies américaines reviennent aux États-Unis, des japonaises aussi qui reviendraient au Japon, plutôt que d'être délocalisées comme auparavant. Est-ce que vous pensez que c'est un véritable péril pour l'économie chinoise que ce mouvement d'amoindrissement des interdépendances stratégiques qui s'ébauche?
Ce que je pense, c'est que tout cela a besoin d'être réorganisé très sérieusement. Alors maintenant, beaucoup dépend de la bonne foi des différents gouvernements et aussi de leur réalisme quant à la gestion mondiale des biens communs. Parce qu'il apparaît dans cette crise qu'il y a des intérêts communs, même si au moment où l'épidémie arrive dans un pays, on pense à défendre la population du pays, et c'est l'État national qui prend en charge ces choses et vers lequel tout le monde se tourne d'ailleurs. Tout le monde veut de l'État, tout le monde veut qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui protège. Mais à côté de cela, il y a des liens et des échanges qui sont absolument indispensables pour que les choses fonctionnent. Et c'est la réorganisation de ces échanges qui doit être menée à l'échelle mondiale, à l'échelle régionale, à l'échelle mondiale. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le danger que représenterait la puissance de l'économie chinoise. Elle est puissante, bien sûr, parce que la population est très nombreuse et le pays est très vaste. Mais il y a beaucoup de problèmes internes, et ces problèmes internes sont réveillés par la crise de l'épidémie. Donc, je pense qu'il vaut mieux que les États essaient de s'entraider et de mettre en œuvre un système plus rationnel et plus sûr aussi, qui évite des crises de ce genre de nouveau, parce qu'il y aura d'autres épidémies. Tous les savants nous disent qu'il y aura des nouveaux virus qui apparaîtront, que l'on ne connaît pas et contre lesquels on n'a pas d'armes. Donc il faut prévoir, mais prévoir à long terme et au fond, essayer d'harmoniser les économies qui existent dans les différentes régions du monde, aménager les communications entre ces économies et arriver à un système plus rationnel, recommencer un effort qui avait été entrepris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais qui maintenant a besoin d'être repris avec des impératifs différents, parce que dans cette crise qui est apparue, c'est que les moyens numériques étaient absolument essentiels, à la fois pour la psychologie des gens, c'est grâce à l'Internet que tout le monde n'a pas eu une dépression en restant tout seul chez soi, mais en même temps, cela met dans la dépendance des grandes entreprises qui manient l'Internet ou qui fournissent les grandes bases de données. Et ça, c'est quelque chose que les États doivent négocier, et on doit protéger le maintien d'une certaine liberté de l'individu malgré les contraintes collectives.
Alors précisément, là, c'est ce sujet est très intéressant, car c'est l'autre sujet qui a émergé quand on voit la gestion quand même de l'épidémie par la Chine et par d'autres pays d'Asie d'ailleurs, c'est effectivement l'importance des outils numériques dits de tracking, c'est-à-dire permettant de déterminer quelle personne s'est déplacée, où, qui elle a rencontré, et autres, qui dans le cas d'une épidémie, évidemment, un avantage incroyable, puisque si on sait qu'une personne contaminée est contaminée et qu'elle a rencontré 10 autres, on peut aller se tourner vers ces 10 autres pour leur suggérer un confinement ou leur proposer un dépistage de la maladie. Toutefois, on voit à cette occasion la puissance de ces outils. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur leur utilisation en Chine dès avant l'épidémie?
Avant l'épidémie, la police chinoise avait mis en train des écrans par lesquels on filme les gens quand ils marchent dans la rue, et on peut repérer leurs infractions aux règles de la circulation ou leur mauvais comportement s'ils donnent des coups de poing, etc. Bon, grâce à une reconnaissance faciale tout à fait extraordinaire qui, dans une énorme foule, arrive à faire trouver des criminels. Bon, ça, ce n'était pas très apprécié de la population quand même. Dans le cas de l'épidémie, ce que les Chinois, par exemple, à Pékin, ont beaucoup apprécié, c'est qu'il y avait une application qui vous permettait, sur votre portable, de savoir où se trouvait les gens qui étaient contaminés à 10 km autour de vous. Et donc, d'éviter d'aller vers ces personnes. Et ça, c'était apprécié, c'était anonyme, bien entendu. Certainement, dans les grandes bases de données de la police chinoise, on savait qui était qui et où c'était. Et pour la population, c'était utile. Et à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, les gens ont aussi une petite application sur leur portable qui leur permet de savoir où sont les personnes infectées. Et c'est apprécié, ça.
Il est possible donc qu'à l'occasion de cette épidémie, la tolérance au système numérique de surveillance ou de tracking s'augmente. Voilà.
Je pense que tout dépend de savoir qui a les données, si les données sont anonymes, si elles peuvent être détruites, par exemple, que tout ce qui concerne le Covid-19 sera détruit quand on aura trouvé un vaccin et donc ça n'a plus aucune importance. C'est un contrôle, au fond, de la population, de savoir qui a le contrôle de ça. Et cela, c'est un des problèmes qu'il faudra résoudre au lendemain de l'épidémie. Enfin, il faudra mettre en place un système qui assure quand même
une certaine démocratie
de
numérique.
La dignité et de la liberté individuelle, de trouver des bonnes garanties, les garanties adéquates.
Écoutez, ce sera certainement effectivement l'un des enjeux du monde d'après, car on dit souvent que le monde d'après ne sera plus le même. C'est certainement l'un des aspects sur lesquels il faudra être attentif. Et j'espère que votre idée de réunir une sorte de société des nations autour de cette question sera retenue. Pour en rester à ce monde d'après et revenir au sujet initial, même si cette incise était extrêmement intéressante, comment voyez-vous la place de la Chine dans le monde d'après ? Alors j'imagine qu'évidemment il est très compliqué de faire des pronostics aujourd'hui, d'autant que la crise n'est pas terminée, mais peut-être est-il pertinent de s'interroger sur une série de points, d'indicateurs qui mériteraient d'être suivis et d'avoir toute notre attention dans les semaines et les mois à venir.
Ben, je pense que ils sont très pragmatiques, les Chinois. Ils ne font pas des théories. Bon, bien sûr, il y a une partie de Chinois qui adore faire des théories et échafauder des systèmes. Mais dans la gestion des affaires, ils ont une très longue expérience pluriséculaire de la gestion des épidémies. Du temps de l'Empire, il y avait des gens qui s'occupaient de ça et ils avaient des pratiques, ils connaissaient des systèmes pour gérer les choses. Et là, j'imagine qu'il y aura des réunions à la fois des savants et des politiques et des administrateurs pour mettre en route, mettre en place une meilleure prise en charge de ces choses. Là, ce qu'on a vu dans ce qui s'est passé, c'est que ça ne peut. Bien sûr, il faut une impulsion de l'État central ou du centre de la région. En Allemagne, ce sont les Länder qui traitent les choses. Bon, il faut une impulsion centrale, mais en même temps, c'est localement que les choses se passent. Si vous voulez, l'efficacité, au fond, c'est dans le quartier, de trouver les gens qui sont malades et de les mettre loin de chez eux, pas avec la famille comme nous on le fait. Et cette articulation entre le centre et puis la base locale, le ras des pâquerettes, elle est essentielle. Et là, je pense qu'en Chine, ils mettront en route quelque chose d'autre en laissant finalement plus d'initiatives à la base.
Vous pensez qu'on va vers une revitalisation du principe de subsidiarité?
Je pense que dans la gestion qui s'est produite jusqu'ici, on a parlé uniquement de Shanghai, Wuhan, de Hubei, etc. Mais ça, la province du Yunnan, elle a fait ce qu'elle a pu, la province du Shaanxi, elle a fait ce qu'elle a pu. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord. C'est le gouverneur de province qui est en charge à ce moment-là. Et c'est lui, selon sa capacité, son intelligence, son sens du commandement, son autorité auprès des autres, qui agit. Quand Xi Jinping a changé le secrétaire du parti à la tête de la province de Hubei, il a envoyé quelqu'un qui est allé voir si les mesures étaient réellement appliquées dans les quartiers. Et il s'est rendu compte que non. Que ça ne marchait pas, que le commandement ne passait pas. Et donc, il a essayé de changer les choses. Mais je pense qu'il y aura un rajustement de ce côté-là et qu'il y aura des systèmes plus efficaces et finalement, probablement, plus respectueux de la population à la base que ça n'était le cas avant. Ça ne va pas forcément vers davantage d'autoritarisme. Je pense qu'il faut... Les deux peuvent arriver, mais une évolution plus respectueuse des individus, elle n'est pas exclue non plus. Parce qu'il y a eu des cas qui ont beaucoup frappé les gens. Et je pense qu'il ne, il ne faut pas perdre la possibilité d'améliorer. Et que s'il y a de la bonne volonté, de la bonne foi, de différents côtés, on peut arriver à mettre sur pied de meilleures organisations. Par exemple, entre les scientifiques chinois et nos scientifiques en France et les scientifiques en Angleterre, aux États-Unis, il y a des échanges. Et ce sont des gens qui sont en rapport depuis très longtemps, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ils ont le souci, chacun de leur côté, de trouver des bonnes solutions qui serviront à tout le monde. Il n'y a pas forcément une volonté de puissance qui est d'être plus célèbre que le savant d'à côté. Et de même pour les États, je pense que maintenant, il n'y a pas forcément une volonté de puissance d'être plus performant que celui d'à côté ou d'être plus vanté que celui d'à côté. Il peut y avoir un sentiment plus raisonnable.
Oui, ou les deux ensemble. En tout cas, je vous remercie beaucoup de tous ces éclaircissements. Nous avons maintenant une vision plus claire de ce qui s'est passé et ce qui se déroule encore aujourd'hui en Chine et même des années à venir. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra effectivement garder un œil sur ce qui se passe là-bas et le voir effectivement comme une occasion de progrès, faire ce qu'on appelle un retour d'expérience, de croiser nos expériences mutuelles entre pays, régions du monde. Et la Chine est dans l'une des plus vastes d'entre elles et au cœur de cette crise. Et bien évidemment, elle sera, en quelque sorte, peut-être le laboratoire de ce monde nouveau à donc observer. Et merci de nous l'avoir décrypté, madame. J'espère que vous pourrez revenir pour évoquer justement ces retours d'expérience dans les semaines et les mois à venir, si vous l'acceptez.
Il me semble essentiel de ne pas faire de distribution des prix et de ne pas dire un tel a le premier prix, l'autre le second. Je pense que chacun essaie de faire le mieux et qu'il faut échanger les expériences.
Ça, vous avez tout à fait raison. Le retour d'expérience implique, pour qu'il soit sincère, le droit à l'erreur. Et Dieu sait, nous en avons probablement tous fait face à cet événement inédit. C'est ça que vous voulez dire, je pense.
Oui, sûrement.
Je vous remercie beaucoup, une fois encore, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous pourrez revenir pour que nous fassions ensemble justement ce retour d'expérience dans quelques semaines ou mois, lorsque l'événement sera désormais derrière nous et un pur objet d'étude. À bientôt, madame. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Au revoir. Merci.